Très bon réveil à tous. Voici le journal de Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Le gouvernement veut lutter contre les féminicides. Le Grenelle contre les violences faites aux femmes s'ouvre aujourd'hui alors que 101 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint depuis le début de l'année. Nous reviendrons également sur l'utilisation de ce mot féminicide, un terme plus médiatique que juridique, nous expliquera le président de l'Association des magistrats instructeurs.
L'ouragan Dorian est presque à l'arrêt ce matin au-dessus des Bahamas. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et les dégâts s'annoncent considérables. Sur l'archipel, des États-Unis se préparent à l'arrivée de l'ouragan dans les heures à venir.
Nous irons au Brésil enfin un an après l'incendie du musée national de Rio de Janeiro. 80% des collections ont été détruites, mais plusieurs milliers de pièces ont été retrouvées intactes au plus grand bonheur des conservateurs. Et dans une dizaine de minutes, Guillaume, la question du jour.
Retraite, comment être égaux devant l'âge de départ? On posera la question à Hippolyte Dalby, s'il est professeur à l'école d'économie de Paris.
Pas un jour ne passe sans que le chiffre n'augmente, celui des femmes tuées par leurs compagnons ou ex-conjoints. Les associations de victimes en dénombrent désormais 101 depuis le début de l'année. Des chiffres très élevés par rapport aux dernières années, trop élevés pour ces structures qui alertent le gouvernement depuis déjà plusieurs mois. En réponse, le Grenelle contre les violences conjugales s'ouvre aujourd'hui, il durera 3 mois. Différents acteurs vont se réunir ainsi que plusieurs ministères pour débattre de la prévention mais aussi de la prise en charge de ces femmes en souffrance. Les associations dénoncent un manque de moyens. Elles réclament 1 milliard d'euros pour agir concrètement. De l'argent, Fiona Mogadam, qui servirait à l'hébergement d'urgence, mais aussi à l'accompagnement de ces femmes. Une thématique sur laquelle il reste énormément de progrès à faire.
C'est un constat que font toutes les associations. La prise en charge de ces femmes doit être améliorée, notamment pour les plaintes. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, en 2017, moins d'une femme sur 5 victimes de violences conjugales a déposé plainte. L'an dernier, sur 500 femmes interrogées par le collectif Le Groupe F, 60% disent avoir dû insister beaucoup ou s'être vu refuser un dépôt de plainte.
C'est un problème réel. Ce policier ou ce gendarme, il n'a aucune idée de ce que c'est que la violence exercée dans l'intimité.
Marie-France Casalis du collectif féministe contre le viol assure régulièrement des formations de policiers et gendarmes. C'est l'une des mesures prioritaires.
La victime, au moment où elle parle, la terreur revient. Elle entend ce que lui a dit l'agresseur. Si tu dis ça aux flics, tu ne reverras plus les gosses. Si tu dis ça aux flics, ils sauront que tu es une pute. Elle n'est pas libre dans sa parole. Elle n'est pas libre dans sa pensée. Elle est sous emprise. C'est ça qu'il faut faire comprendre à l'ensemble des intervenants.
Autre nécessité, renforcer les dispositifs qui existent déjà, mais insuffisamment développé. Annie Gilberto est directrice générale de la Fédération nationale sur les droits des femmes.
Le téléphone grave danger, qui représente quand même une véritable sécurité pour les victimes, le bracelet électronique, nous demandons à ce qu'il soit apposé dès la première condamnation, que l'ordonnance de protection soit mise en place dès la plainte. Et nous demandons également une meilleure articulation entre le civil et le pénal, de manière à ce qu'on puisse suspendre le droit d'hébergement du parent violent.
Les associations insistent aussi sur la nécessité de travailler toutes ensemble pour former un véritable maillage contre les violences faites aux femmes. D'après certaines d'entre elles, 85% des féminicides pourraient être évités chaque année.
Fiona Mogadam, cette thématique de l'accompagnement, et notamment par la police, est tragiquement illustrée par la mort d'une jeune femme à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, a été saisie. Des témoins ont en effet constaté un délai d'intervention assez long des forces de l'ordre. Les conditions de l'action de la police vont désormais être étudiées. Une veillée en mémoire de cette jeune femme de 26 ans a eu lieu hier à Cagnes-sur-Mer avec notamment 101 secondes de silence, puisque 101, je vous le disais, c'est le nombre de féminicides que l'on recense depuis le début de l'année. Ce mot féminicide, il est utilisé par des associations pour dénoncer la mort d'une femme par son conjoint. Il fait pourtant débat au sein de l'institution judiciaire puisque le thème n'existe pas dans le code pénal. Il est donc pour l'instant impossible de l'utiliser dans les procédures, explique Pascal Gastineau. Il est président de l'Association française des magistrats instructeurs.
Du point de vue du juge d'instruction que je suis encadré, limité par le code pénal et le code de procédure pénale qui sont les seules sources les seules définitions des faits pour lesquels je peux mettre en examen quelqu'un. Si j'utilise un autre terme, par exemple, que celui de violence ayant entraîné la mort par un conjoint, un ex-conjoint ou ayant fait l'objet d'un PACS, si j'utilise le terme de féminicide, je vais nécessairement donner une dimension, une intensité, une interprétation qui va m'être plus personnelle et qui va me faire sortir de ce rôle technique et objectif qui est celui du juge d'instruction, qui instruit à charge et à décharge dans les limites du code pénal et dans le cadre du code pénal. Donc le premier à réagir, ça sera simplement, bien évidemment, ça sera d'abord peut-être la personne mise en cause, mais ce sera surtout l'avocat qui me dira « Mais attendez, monsieur le juge, de quoi me parlez-vous ? De féminicide ? Mais ça y est, la cause de mon client est entendue. Ça veut dire que vous avez déjà, par votre terme, vous avez déjà statué sur la gravité et sur le fait que mon client était coupable. »
Pascal Gastineau de l'Association des magistrats instructeurs dans le journal de 22h sur France Culture. Interview complète à retrouver sur franceculture.fr ainsi qu'un article complet sur l'utilisation de ce terme féminicide interrogé par le droit.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Maxime Fayolle, le navire humanitaire Ocean Viking a quitté Marseille hier soir.
Une nouvelle mission de recherche et de sauvetage des migrants démarre, explique SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. Le navire a passé une semaine à Marseille après avoir erré 23 jours en mer à la recherche d'un port pour accoster. À son bord, 356 personnes avaient été secourues en Méditerranée sur des canaux de fortune. Les discussions continuent autour de l'avenir de la compagnie aérienne Aigle Azur. La deuxième compagnie française est en cessation de paiement. Elle demande son placement en redressement judiciaire. Cela ouvrirait la possibilité à l'entreprise de poursuivre son activité tout en permettant à des repreneurs de faire une offre. Et dans ce domaine, Catherine Pétillon, plusieurs options sont sur la table.
Avant même l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, des contacts ont été pris, laissant présager plusieurs offres de reprise. À commencer par celle probable de Gérard Houa. Actionnaire de la compagnie à hauteur de 19%, il n'a pas renoncé à y prendre le pouvoir. La semaine dernière, il s'était autoproclamé président de la compagnie à la place du PDG avant d'être démis par la justice. Même après avoir été évacué du siège d'Aigle Azur par la police, il s'est dit prêt à acheter les parts des autres actionnaires et à injecter 15 millions d'euros. Il est donc probable qu'il formule une offre. En parallèle, depuis quelques semaines déjà, Lionel Guérin, ancien dirigeant d'Air France, travaillerait à un projet de reprise avec Philippe Miculot, ex-PDG de Hop. Ces deux personnalités du transport aérien avaient déjà tenté l'an dernier de regrouper l'ensemble des petites compagnies françaises comme Corsair ou Air Caraïbes. Enfin, une troisième offre pourrait venir d'Air France. Selon le syndicat de pilotes SNPL, la compagnie aurait même déjà manifesté son intérêt. Air France s'est pour l'heure refusé à tout commentaire. Tout cela ne constitue pas encore à ce stade d'offres fermes. Les repreneurs éventuels ont jusqu'à la mi-septembre pour le faire et permettre aux 1150 salariés d'Aigle Azur d'en savoir plus sur leur avenir. Parmi les critères auxquels les syndicats se disent attentifs, au-delà bien sûr de l'emploi, le maintien du périmètre de la compagnie et la possibilité pour les salariés de devenir actionnaires de l'entreprise.
Explication de Catherine Pétillon. Au Royaume-Uni, c'est une journée qui s'annonce tendue pour Boris Johnson. Ce mardi, les députés britanniques reprennent le chemin de Westminster avant la pause de 5 semaines imposée par le Premier ministre. Des élus conservateurs pourraient soutenir l'opposition afin d'imposer un nouveau report du Brexit. Le scénario d'un divorce sans accord n'est pas souhaité par une bonne partie de ses députés. Si le gouvernement est mis en minorité, des élections anticipées pourraient avoir lieu le 14 octobre, 2 semaines seulement avant la date fatidique du Brexit. L'ouragan Dorian, lui, perd légèrement en intensité ce matin. Il fait désormais du surplace au-dessus des Bahamas après avoir ravagé une partie de l'archipel. Les États-Unis, de leur côté, se préparent à l'arrivée de Dorian. L'ouragan a déjà causé la mort de 5 personnes aux Bahamas où les dégâts sont très importants, Grégory Philippe.
Depuis plus de 24 heures, Dorian s'acharne sur l'archipel. Désormais, l'ouragan stagne au-dessus des Bahamas et les vents continuent à souffler à plus de 200 km/h. Ce sont donc d'énormes quantités d'eau qui s'abattent, notamment sur l'île de Grand Bahama, la plus à l'ouest. Le ministre de l'Agriculture des Bahamas a filmé cette vidéo chez lui et l'a publiée sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la fenêtre de ma cuisine. L'eau est montée à au moins 6 ou 7 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus à l'ouest, en Floride, les autorités ont ordonné des évacuations dans plusieurs comtés. Mais les toutes dernières projections météo semblent indiquer que l'ouragan ne frappera pas directement cet État américain. Il devrait se contenter de longer la côte. Hier soir, le gouverneur Ron DeSantis était donc prudemment optimiste sur CBS.
On n'est pas encore tiré d'affaire. Les gens doivent rester vigilants. Mais en même temps, nous avons ces prévisions qui nous disent qu'on devrait connaître un événement moins grave que ce qu'on redoutait il y a encore 4 jours. Bien sûr, il va y avoir beaucoup d'eau, des inondations, du vent et des dégâts. Mais ce sera sans doute moins grave que si cet ouragan nous avait frappé directement.
Dorian n'est plus qu'à 170 km des côtes de Floride et devrait s'en approcher tard ce soir ou demain mercredi.
Grégory Phillips, et on apprend à l'instant que l'ouragan vient d'être rétrogradé en catégorie 3 par les services météo américains. Autre catastrophe écologique cette fois en cours, ce sont les feux de forêt en Amazonie. Un sommet doit avoir lieu vendredi en Colombie. Il se fera sans le président brésilien Jair Bolsonaro, absent pour des raisons de santé. Le Brésil qui se souvient il y a un an de l'incendie du musée national de Rio de Janeiro. La quasi-totalité des collections ont disparu, mais heureusement, Jean-Mathieu Albertini, les conservateurs ont pu retrouver certaines pièces qui serviront à la reconstruction d'un futur musée.
Les stigmates de l'incendie sont toujours visibles sur le bâtiment abandonné recouvert d'un toit provisoire, mais depuis plusieurs mois, paléontologues et archéologues s'échinent à sauver le plus de pièces possible dans les décombres. 80% des collections ont été touchées par le feu, mais toutes n'ont pas été détruites. Plus de 5000 pièces ont déjà été retrouvées, dont des pièces iconiques comme le crâne de Louisia, le plus vieux fossile découvert sur le continent américain. De quoi redonner un peu d'espoir aux universitaires qui n'en espéraient pas tant, même si une partie du passé du Brésil a disparu. Avec ce travail de récupération et les dons de nouvelles pièces, le musée espère recomposer une grande collection. Mais la rectrice de l'université qui gère le musée se plaint de la bureaucratie monstrueuse qui complique tout. On est allé jusqu'à lui demander des documents pour prouver que le musée avait bien brûlé. Et puis si des budgets ont été débloqués, plusieurs promesses n'ont pas été tenues. Le réseau de soutien pour aider à la reconstruction promis par l'ancien président Michel Temer n'a jamais été mis en place. Or, il manque une bonne partie des 80 millions d'euros nécessaires à la reconstruction. Il faut dire qu'au Brésil, les donations ne sont pas déductibles d'impôts et le gouvernement actuel ne semble pas prêt à débloquer tous les fonds nécessaires. Malgré tout, les travaux avancent peu à peu et la direction du musée espère pouvoir ouvrir de nouveau au public en 2022.
Jean-Mathieu Albertini, le temps de ce mardi globalement très beau sur tout le pays. Quelques nuages sur le nord de la France. Les températures ce matin de 6 à 16 degrés, Guillaume Erner.